Vous écoutez, on lit pour vous.
Le champ des possibles, un texte de Kelly Boutsalis dans l'édition d'octobre 2025 d'El Québec. La musicienne Inouk Elisapi sortira sous peu un micro-album de remix des chansons de son album acclamé Inuktitut, sur lequel elle reprend des morceaux iconiques d'artistes connus. Elle aborde avec passion son processus créatif, son amour pour la tournée et son passé qui continue d'inspirer son avenir. Elisapi est très demandée. Au début de l'été, nous nous sommes entretenus par visioconférence lors d'un rare moment de répit dans son horaire, alors qu'elle revenait de New York où elle avait donné un concert au Smithsonian, plus précisément au National Museum of the American Indian. Elle est dans sa demeure montréalaise. Dans son chemisier en lin blanc, les cheveux lissés et attachés sur la nuque mettant en valeur son visage nu et ses taches de rousseur, elle semble détendue et de bonne humeur. Derrière elle, j'aperçois l'œuvre en noir et blanc de Kakulu Sadjiaktok, représentant des images miroirs d'humains et d'animaux en transformation. Elle est intitulée « My Dreams » et datée de 1977, l'année de naissance d'Elisapi. Inuktitut, le dernier album de cette musicienne, a généré plus de 9,5 millions d'écoutes dans le monde et plus de 10 000 copies de cet opus ont été vendues au Canada seulement. Cet album, sorti en 2023, est composé de 10 reprises de chansons pop et rock de Cyndi Lauper, Blondie, Metallica, toutes chantées en Inuktitut, la langue maternelle de l'artiste de 48 ans. Il lui a valu le Juno du meilleur album alternatif de l'année en 2025. La voix et les mélodies éthérées d'Elisapi, agencées à des airs d'un passé qui nous plonge dans une douce nostalgie, ont réussi à grandement toucher le public. Inuktitut a suscité des réactions complètement différentes de celles de ses trois premiers albums solo. Citation : cette fois-ci, plusieurs personnes m'ont dit qu'elles ne percevaient même plus la langue des chansons, qu'elles étaient juste émues par elles. Chaque fois que je les chante, il y a quelque chose qui vient chercher les gens. Fin de citation. Elle cherche les mots justes pour exprimer l'émotion complexe que lui inspirent les pièces de pop et de rock classiques qu'elle a choisi d'interpréter. Pendant la pandémie, elle dit s'être de nouveau fait bercer par des chansons comme « White Horses » des Rolling Stones et « Wish You Were Here » de Pink Floyd, qui lui rappelaient son enfance dans le Nord. Citation : j'étais dans un tourbillon d'émotions. Je pleurais en écoutant ces chansons qui résonnaient dans mes oreilles quand j'étais enfant. C'était douloureux. Fin de citation. Elle s'est laissée emporter par ses émotions et, comme il s'agissait d'un exercice cathartique, elle a commencé à traduire en Inuktitut les pièces qui la replongeaient dans son passé, avec l'autorisation des artistes. Elisapi est surprise, mais heureuse de la réaction du public à son projet. Citation : chez les gens, ces chansons sont liées à des souvenirs et il se passe quelque chose en eux lorsqu'ils les entendent dans une langue autochtone très ancienne. C'est une expérience unique. Fin de citation, dit-elle. Inuktitut continue de faire son chemin. La musicienne est en tournée jusqu'à l'an prochain au Canada et au Japon pour l'exposition universelle d'Osaka et elle sortira le 24 septembre un EP de la réorchestration de cet album avec le DJ et producteur montréalais Hologramme, avec qui elle collabore souvent. Mais la musique n'est pas la seule chose qui l'occupe. Aux côtés de l'artiste multidisciplinaire Marc Séguin, Elisapi est en train de mettre la touche finale à un court-métrage d'animation qu'elle a réalisé pour l'Office national du film du Canada. On y suit un personnage qui quitte son monde isolé pour se rendre en ville, tout au sud. Ce n'est pas sa première incursion dans le cinéma. Elle a également co-réalisé avec Hudson Babies « L'héritage méconnu », un documentaire sorti en juin sur Ici Tupoué.tv. On y retrace l'histoire d'enfants nés de femmes inuites et d'hommes qui travaillaient pour la compagnie de la baie du Tson. C'est aussi l'histoire d'Elisapi. Les pères de certaines des personnes interviewées dans le film n'ont jamais reconnu l'existence de leur progéniture, mais le cas d'Elisapi est différent. Elle a été adoptée et élevée par un cousin éloigné de sa mère biologique, une pratique courante dans la culture inuite. Elle a vécu à Saluit, la deuxième communauté la plus septentrionale du Québec, au Nunavik. C'est dans ce village que vivait sa mère, Eva Outladlook, une animatrice de radio bien connue. À la préadolescence, Élisapi a rencontré son père pour la première fois à Terre-Neuve. Au départ, il s'expliquait mal son adoption. Citation : C'est complexe de parler de nos origines métissées parce que nous nous sentons entièrement Inuits dans le Nord. Je suis Inuk, mais il y a tout de même quelque chose qui nous différencie, dit-elle. On parle peu de cette facette de notre identité parce qu'on s'épanouit au sein de nos familles. On n'a pas l'impression qu'il nous manque quelque chose. Fin de citation. Les parents d'Élisapi étaient contents du lien qu'elle entretenait avec son père biologique. Citation : J'étais la seule à connaître mon géniteur. Il m'envoyait un cadeau chaque année. Mes parents me disaient : Oh, tu as reçu quelque chose par la poste de ton père blanc. On l'appelait Ataltaluk, le grand-papa. Fin de citation. Avec Hudson Babies, elle souhaitait que les Inuits puissent découvrir des histoires comme la sienne, mais bien d'autres, comme celle de Johnny Smiler Irkumia et de l'ancien sénateur Charlie Watt, qui parlent de leur père, qui étaient eux aussi des travailleurs de la baie d'Hudson. Citation : On ne nous donne jamais l'occasion de parler de notre histoire particulière, celle que nous avons en commun. Fin de citation. Vous écoutez Le Chant des possibles, un texte de Kelly Boutsalis dans l'édition d'octobre 2025 d'El Québec. Élisapi rêvait depuis qu'elle était toute petite d'évoluer devant et derrière la caméra. Heureusement, elle a toujours été entourée par des gens qui ont soutenu ses passions. Par exemple, lorsqu'elle a déménagé à Montréal en 1999, ils l'ont encouragée à étudier en communication. Citation : J'étais cette fille qui posait trop de questions. Je voulais être journaliste, passer à la télévision. Fin de citation. Aujourd'hui, elle est encore cette fille, et bien plus encore, mais son fil d'Ariane reste la musique. Élisapi associe ses premiers souvenirs à la musique, notamment aux hymnes qu'elle entendait chaque dimanche matin à l'église anglicane et qui, traduits en Inuktitut, lui semblaient très beaux. Malgré sa grande timidité, chanter ces hymnes lui permettait de s'exprimer. Fière de sa fille, sa mère a commencé à appeler tous les midis à la radio locale pour qu'Élisapi chante un morceau en direct. Citation : Les gens de la ville ont entendu mille fois le même hymne, dit-elle en souriant. Pour moi, la musique est un besoin vital, comme manger ou dormir. Ça me calme. Fin de citation. Elle se souvient d'avoir été fascinée par le groupe de son oncle Georges Kakayouk, qui jouait du folk et du rock'n'roll. Adolescente, elle a assisté à l'un de ses concerts qui lui a donné l'impression de voir les Beatles. Elle a rapidement rejoint le groupe, alors appelé Sugluk. À la même époque, à Saluit, elle animait sa propre émission de radio locale pour les adolescents. À l'âge de 15 ans, elle a notamment interviewé Kirk Hammett du groupe Metallica. Par ce travail, elle avait le sentiment d'être un pont entre le public et les musiciens qu'elle aimait. Jeune adulte, elle s'est consacrée à des projets journalistiques, mais elle est revenue à la musique en 2000 lorsqu'elle a formé le groupe Taïma avec le compositeur et arrangeur Alain Auger. Ensemble, ils ont sorti un album éponyme, leur seul opus, composé de 11 chansons mélangeant folk, trip-hop, pop alternative, rock et musique traditionnelle inuit, qui a remporté un prix Juno en 2005. Comme Élisapi est aujourd'hui sous les feux de la rampe, son étiquette Bon Sound rééditera Taïma en novembre en vinyle, en numérique et en CD. Elle a sorti 3 albums solo qui mêlent chacun ses 3 langues, le français, l'anglais et l'inuktitut, et couvrent un large éventail de genres musicaux. Au fil du temps, elle s'est constituée un public de fans fidèles, dont Anna Lam, la star de la série à succès North of North, diffusée sur CBC et Netflix. Citation : Les albums Traveling Love et There Will Be Stars d'Élisapi ont marqué ma jeunesse. Dès que ma mère nous les faisait entendre, le premier jour ensoleillé d'avril, je savais que le printemps était arrivé, dit l'actrice. Je n'ai malheureusement pas encore eu l'occasion de la rencontrer en personne, mais si ça arrivait, je serais dans tous mes états. C'est la seule personne qui me ferait passer pour une vraie groupie. » Fin de citation. Voir Élie Sapy sur scène est également une expérience hors du commun qui en met plein la vue. Lors de sa prestation au Gala des Prix Polaris 2019, elle portait un arnotti, une tunique à capuchon traditionnelle, rouge transparent, créée par Victoria Hockpick. Parmi ses autres tenues remarquables, on peut citer une superbe veste à franges noires confectionnée par son amie Caroline Monet et des boucles d'oreilles XXL en peau de phoque en forme d'éclair réalisées par Cathy Poutougouk d'Akoulouk Création qu'elle a portées cette année au Gala des Prix Juno. Citation « Je ne peux pas me contenter d'enfiler un T-shirt et des boucles d'oreilles, je me sentirais nue. J'ai réalisé à quel point la mode est un moyen d'expression puissant sur scène. » Fin de citation. Elle attribue son obsession pour la mode à son enfance. Elle voyait sa mère biologique, Eva, confectionner de magnifiques versions modernisées de parkas traditionnels pour ses autres enfants ou leur rapporter des boucles d'oreilles de Montréal. Mais ces cadeaux étaient réservés aux autres et les adultes qui l'ont élevée n'étaient pas intéressés par la mode. Aujourd'hui, emprunter une pièce à une créatrice la rend excitée comme une petite fille. Parenthèse, elle précise qu'Eva adore toutes les tenues qu'elle voit sa fille biologique porter aujourd'hui. Fin de parenthèse. Citation « Je suis obsédée par la façon dont je vais présenter une chanson visuellement. Les Inuits ont toujours aimé créer de belles choses. On a toujours été très avant-gardistes en matière de mode. » Fin de citation. Lorsqu'elle est en tournée, elle se sent vivante, libre. Citation « Je peux être moi-même et faire tout ce que je veux. » Fin de citation, dit-elle, même si elle avoue se sentir parfois contrainte ou perdue. C'est aussi un sacrifice, car lorsqu'elle est sur la route, elle passe du temps loin de ses trois enfants. Parenthèse, elle partage la garde de son aîné avec son ex-conjoint, l'acteur Patrice Robitaille. Fin de citation. Une fois rentrée chez elle, elle remet rapidement son chapeau de maman. Citation « J'essaie encore de trouver l'équilibre entre l'artiste et la mère que je suis. Mes enfants ont une belle vie, et c'est un tel cadeau quand on est une maman sur la route de savoir que ses enfants vont bien. » Fin de citation. Quelques semaines après notre conversation, Élie Sapy m'a envoyé un texto. Elle avait pris le temps de réfléchir à notre discussion et voulait me faire part de certaines choses. Citation « Lorsque nous avons discuté, je vivais des moments particuliers. Je reprenais ma tournée estivale, j'étais excitée, mais je vivais aussi une tristesse que je n'étais pas encore prête à partager. » Fin de citation. Elle m'a expliqué qu'elle se protégeait d'une grande douleur. Citation. « Je suis en plein deuil de membres de ma famille immédiate, décédés dans les derniers mois. J'ai l'impression de mener une double vie, parfois. Je suis souvent envahie par un sentiment de culpabilité de leur avoir survécu. » Fin de citation. Pour elle, il était important que cette perte fasse partie de son histoire pour qu'elle puisse s'y reconnaître. Élie Sapy sait exactement qui elle est et ce qui fait partie intégrante de son être. Elle reconnaît que de vagabonder réveille la nomade qui sommeille en elle. Elle sait aussi que lorsqu'elle se déposera, ce ne sera pas très long avant qu'elle se demande à nouveau « Qu'est-ce qui m'attend maintenant ?» C'était « Le chant des possibles », un texte de Kelly Boutsalis dans l'édition d'octobre 2025 d'Elle Québec.
La réconciliation passe par l'éducation. Un texte de la rédaction paru sur le site du Centre national pour la vérité et la réconciliation, CNVR. Le mandat du Centre national pour la vérité et la réconciliation consiste entre autres à sensibiliser le public à l'histoire et à la création des pensionnats autochtones, aux séquelles de ce système qui perdure encore aujourd'hui, ainsi qu'à la mesure dans laquelle ce système a façonné le pays dans lequel on vit. Les ressources pédagogiques et programmes éducatifs que nous offrons permettent aux gens de connaître la vérité sur ce sombre passé. Le CNVR travaille en étroite collaboration avec des éducateurs de plusieurs secteurs différents, dont le système scolaire de la maternelle à la 12e année, les établissements postsecondaires, la fonction publique et divers secteurs professionnels. Cela dans le but d'offrir un accès à du matériel et des ressources pouvant aider les Canadiens de tous âges à en connaître davantage sur la notion de réconciliation et à y participer. Comme l'a si bien dit l'honorable Murray Sinclair, ancien président de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, CVR, l'éducation est ce qui a mené à ce gâchis, mais c'est aussi grâce à elle que nous allons nous en sortir. Apprendre au CNVR. Le CNVR accueille un grand nombre de groupes, d'organisations, de classes et d'autres visiteurs dans le cadre d'activités de sensibilisation et d'apprentissage. Il est possible, voire encouragé, d'effectuer des réservations pour des présentations, des ateliers et des activités pédagogiques, de même que pour des visites guidées du centre et de la galerie. Vous aimeriez explorer le centre? N'hésitez pas à communiquer avec nous. Visitez la page web nctr.ca/education-fr. Ressources pédagogiques. Les archives du CNVR comptent plus de 400 ressources différentes en anglais et 200 en français qui traitent des pensionnats autochtones et de sujets connexes. Choisissez parmi des applis à télécharger, des livres, des jeux d'ordinateur, des films, des romans graphiques, des plans de cours, des guides d'enseignement et plus encore. Les ressources sont organisées selon le niveau scolaire. Préscolaire, de la maternelle à la 5e année, de 4 à 10 ans, 6e et 7e année, de 11 à 13 ans, 7e et 8e année, de 14 à 15 ans, 9e et 10e année, de 15 à 16 ans, 10e et 11e année, de 16 à 17 ans. Ressources qui ne sont pas destinées à un niveau scolaire précis, ressources pour adultes et enseignants, collège d'enseignement général et professionnel, cégep. Ressources additionnelles, histoire des pensionnats autochtones, déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Élargir nos ressources. Vous aimeriez demander ou suggérer du matériel pédagogique additionnel que nous pourrions ajouter à nos ressources? N'hésitez pas à communiquer avec nous pour nous faire part de vos questions ou idées et nous aider à continuer de développer nos ressources d'enseignement. Programmes éducatifs. Grâce à des programmes éducatifs variés mettant l'accent sur la sensibilisation et la mobilisation, le CNVR aide tous les segments du public canadien à explorer des vérités mises au jour, à s'engager dans des conversations sur le thème de la réconciliation et à poursuivre leur parcours vers la compréhension, la guérison et l'empathie, tant au fond d'eux-mêmes que dans leur foyer et leur famille. On propose à la fois des ressources numériques, des forums de discussion en ligne et des ateliers et activités en personne, ce qui comprend « Imaginez le Canada ». Dans le cadre d'Imaginez le Canada, on demande à des élèves d'un bout à l'autre du pays d'imaginer un Canada réconcilié et de créer quelque chose qui représente leur vision. Pour participer, les élèves peuvent créer des œuvres d'art, écrire une composition ou planifier un projet communautaire pour encourager la réconciliation. Decolonizing Lands. Le programme Decolonizing Lands propose une série de films et de discussions mettant en vitrine le travail et les propos d'artistes autochtones de Winnipeg et d'ailleurs. On offre ainsi un lieu pour célébrer le travail de cinéastes autochtones du Canada et souligner l'inclusion d'acteurs, de réalisateurs, de producteurs et de récits autochtones dans ses œuvres cinématographiques. Avec l'appui du Centre national pour la vérité et la réconciliation, CNVR, et du Programme d'études sur les femmes et le genre de l'Université du Manitoba, Decolonizing Lands organise des projections et des discussions en personne ou en diffusion continue en direct. Toutes les projections sont gratuites et ouvertes à tous. Dialogue du CNVR. Ces webinaires fréquents s'inscrivent dans le cadre des efforts éducatifs du Centre national pour la vérité et la réconciliation, CNVR, visant à mettre en lumière des sujets d'intérêt liés à la vérité et à la réconciliation au Canada. Nous avons eu des discussions enrichissantes avec des aînés, des survivants, des dirigeants autochtones et des experts sur divers sujets afin de favoriser un dialogue continu. L'inscription n'est pas obligatoire et les webinaires sont diffusés en direct sur nos chaînes Facebook et YouTube. Certains de nos dialogues récents ont inclus une séance sur le fonds de soutien Nami Kwai Nimak du CNVR et Femmes Sacrées, où la docteure Karine Duhamel, Kimberly Levasseur Pouach et l'aînée Amanda Wallin ont parlé de ce que signifie être une femme autochtone dans le monde d'aujourd'hui. Présentations éducatives du CNVR. Le Centre national pour la vérité et la réconciliation, CNVR, offre des présentations, des ateliers et des activités éducatives sur demande. Chaque séance est adaptée selon les connaissances et l'intérêt du public en ce qui a trait aux pensionnats autochtones et aux archives. Que votre auditoire n'ait jamais entendu parler des pensionnats autochtones auparavant ou qu'il souhaite connaître les façons de s'impliquer pour la justice sociale, les membres du personnel du CNVR sauront vous orienter sur divers sujets liés à notre mandat. C'était « La réconciliation passe par l'éducation », un texte de la rédaction paru sur le site du Centre national pour la vérité et la réconciliation, CNVR.
Contraception forcée, le traumatisme des femmes groenlandaises. Un texte de l'Associated Press, paru le 24 septembre 2025 sur le site de Radio-Canada. À l'âge de 13 ans, Catherine Peterson s'est vue poser un dispositif contraceptif par des médecins danois sans son consentement. Elle était tombée enceinte et après que des médecins de la ville groenlandaise de Maniitsoq eurent interrompu sa grossesse, ils lui ont posé un dispositif intra-utérin, DIU, communément appelé stérilet. Aujourd'hui âgée de 52 ans et vivant au Danemark, Mme Peterson se souvient qu'on lui a annoncé la pose du dispositif juste avant de quitter l'hôpital. Citation « À cause de mon âge, je ne savais pas quoi faire », dit-elle en pleurant. « Je l'ai gardé en moi et je n'en ai jamais parlé ». Fin de citation. Elle affirme que ce traumatisme a entraîné colère, dépression et excès d'alcool, car elle a longtemps refoulé ses souvenirs et n'en a jamais parlé au médecin. Plus tard, après son mariage, elle n'a pas pu avoir d'enfant. Excuses officielles. Lors d'une cérémonie prévue mercredi dans la capitale groenlandaise, Nuuk, la première ministre danoise Mette Frederiksen et son homologue groenlandais Jens Frederik Nielsen présenteront leurs excuses officielles pour le rôle de leur gouvernement dans les mauvais traitements infligés aux filles et femmes autochtones du Groenland qui ont reçu une contraception invasive contre leur gré de la part des autorités sanitaires danoises. Ces cas remontent aux années 1960. Nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé, mais nous pouvons en assumer la responsabilité et créer les conditions d'une réconciliation avec le passé, a déclaré Mme Frederiksen dans un communiqué publié lundi, ajoutant que le gouvernement danois a l'intention de créer un fonds de réconciliation pour indemniser financièrement les victimes. Déshumanisation. La contraception forcée des femmes et filles autochtones s'inscrivait dans une politique danoise plus large, sur plusieurs siècles, de déshumanisation des Groenlandais et de leurs familles. Cette politique comprenait le retrait des jeunes enfants inuits à leurs parents pour les confier à des familles d'accueil danoises afin qu'ils soient rééduqués, ainsi que des tests controversés visant à évaluer les compétences parentales qui ont entraîné la séparation forcée de familles groenlandaises. Une enquête indépendante, publiée début septembre, a révélé que des victimes inuites, dont certaines âgées de 12 ans ou moins, ont subi la pose de stérilet ou ont reçu des injections hormonales contraceptives sans être informées ni avoir donné leur consentement. Certaines ont décrit des expériences traumatisantes qui ont engendré honte et effets secondaires physiques, douleurs, saignements, infections graves. L'enquête portait sur les témoignages de 354 femmes, mais les autorités danoises estiment que plus de 4000 femmes et filles, soit environ la moitié des femmes fertiles au Groenland à l'époque, ont reçu des stérilets entre les années 1960 et le milieu des années 1970. Il n'est pas possible de déterminer combien de ces cas ont été réalisés sans consentement. Citation. « Bien sûr, je pense à toutes les femmes qui ont été traitées comme moi », a déclaré Mme Peterson, qui a fait retirer son stérilet plus tôt cette année après plus de 30 ans de silence. « Je ressens de l'empathie pour mes sœurs de cette époque ». Fin de citation. L'objectif supposé de cette contraception forcée était de limiter la croissance démographique du Groenland en empêchant les grossesses. La population de l'île arctique augmentait rapidement à l'époque en raison de meilleures conditions de vie et de soins de santé. Le Groenland a repris le contrôle de son système de santé en 1992. Douleurs et colère persistantes. Christine Bertelsen, 66 ans, aujourd'hui installée à Copenhague, assistera à la cérémonie de mercredi à Nuuk. Elle pense qu'elle avait 14 ans lorsqu'un stérilet lui a été posé au Groenland. Elle se souvient avoir été emmenée à l'hôpital, sans explication, et d'avoir ensuite ressenti une douleur interminable. À 34 ans, elle a donné naissance à un fils, mais pense que deux fausses couches ultérieures sont dues à des complications liées à ce stérilet. Citation. « Bien sûr, je suis en colère contre l'État danois pour cet acte », a indiqué Mme Bertelsen en faisant sa valise pour son vol vers le Groenland. « Je voulais être présente, alors j'ai pris un billet aller simple pour Nuuk. » Fin de citation. Pour la sexagénaire, aujourd'hui retraitée, les excuses officielles arrivent au bon moment. Citation. « Je suis prête pour une réconciliation parce que cela m'aidera », a-t-elle confié. « Ce sera un moment personnel très important pour moi et je suis sûre que cela m'apaisera. » Fin de citation. C'était « Contraception forcée, le traumatisme des femmes groenlandaises », un texte de l'Associated Press paru le 24 septembre 2025 sur le site de Radio-Canada.